Bonsoir à tous. Voilà, on va pouvoir commencer cette soirée de remise des prix de la 24e édition de la Boulangère Mini Transat. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sourires, des rires aussi. Une épreuve en solitaire, sans assistance, sans moyens de communication moderne. La Mini Transat, c'est définitivement une épreuve atypique, même en 2023. Elle n'a pas changé depuis sa création en 1977. Les 90 skippers qui ont pris le départ ne s'y sont pas trompés. Cette année, ils se sont élancés des Sables d'Olonne. C'était le lundi 25 septembre pour la première étape qui les a menés à La Palma aux Canaries. Puis ensuite, le départ de la seconde étape en direction de Saint-François en Guadeloupe a eu lieu le 28 octobre. Et un grand merci, bien sûr, à la classe mini et aux 90 skippers de cette édition 2023. Vous pouvez vous applaudir et on peut les applaudir.
En deuxième position, Callisto et Aérofab, Bruno Lemunier.
La peau brunie par le soleil, les cheveux décolorés sur une moitié du crâne, Bruno monte l'estrade avec l'allure souple de la désinvolture.
Faire un podium sur la Mini Transat, c'est quand même très prestigieux, donc c'est vraiment une satisfaction énorme.
Il vient de gagner sa place dans l'histoire de la Mini Transat, et accessoirement, celle de champion de France 2023 en Mini 650, dans sa catégorie, les bateaux en série. Cette place sur le podium, ça lui ouvre un chemin royal vers la compétition de haut niveau. Bruno, c'est mon ami, et quand je lui demande quelques jours plus tard ce qu'il va faire, il me dit.
La deuxième place sur la Transat, c'est vraiment super chouette, et c'est vrai que ça ouvre des portes, et tout le monde me demande qu'est-ce que je fais après, sur quel bateau je vais naviguer, sur quel support. Ça paraît être une évidence, la continuité d'un projet sportif dans la voile. Avant la Transat, j'avais déjà pris la décision de ne pas continuer dans le milieu de la voile au large.
Bruno est sur un podium et il arrête tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? 6 mètres 50.
Un mini, c'est un bateau de 6 mètres 50 qui est destiné pour faire de la course au large en solitaire.
Un documentaire de Domitil de Vevey.
On est à 200, un peu plus de 200 000 de l'arrivée, du coup normalement demain on arrive. Allez !
Bruno, le genre de Pokémon qu'on aime croiser. J'ai eu son bateau sur la ligne de départ au Sable d'Olonne, je me dis lui, j'ai envie qu'il gagne. Pourquoi ? Parce que son bateau est tout simplement incroyable. C'est le seul qui a osé, qui a vraiment fait un truc genre délire de A à Z. Bruno, on se revoit en Guadeloupe et j'espère que tu seras ben genre premier quoi.
Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1. Top !
Épisode 1. Mettre les voiles.
Avant, il y avait un lac. Avant, il y avait un lac.
Moi, c'est Domitil. Je suis professionnelle de radio et fan de récits d'aventure en pleine nature, surtout si elles sont sonores. Pour comprendre ce qu'il se joue, il faut revenir 2 ans plus tôt, à l'automne 2021. À ce moment-là, Bruno vient de vendre les parts du studio de design qu'il a cofondé avec son associé. Et il a littéralement besoin de prendre le large. Notre amitié existe depuis une dizaine d'années déjà. Et ce soir-là, on fait la fête. Du coup, Bruno, c'est quoi tes projets pour la suite, là ?
J'ai un nouveau super projet de voile. C'est la Mini Transat. Dans 2 ans, je vais traverser l'Atlantique sur un tout petit bateau. Je vais avoir le bateau bientôt, là.
J'adore ton projet. Il faudrait que tu me racontes tout ça dans un micro. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est que cette décision va bouleverser nos vies. À tous les deux. Quelques mois plus tard, nous prenons la route ensemble. Direction un bateau. Enfin, pas n'importe lequel. Le mini numéro 893. Callisto.
Donc l'enjeu, c'est de réussir à trouver un bateau, parce qu'en fait, beaucoup de gens veulent en acheter. Moi, j'ai l'impression que j'ai trouvé exactement le bateau que je cherchais.
Préparer la Mini Transat, c'est d'abord trouver la perle rare, le bateau avec lequel on ira plus vite que les autres. Callisto, c'est ce bateau-là.
J'ai choisi un bateau de série qui me plaisait, Et une personne avec qui j'avais beaucoup navigué me dit « Ma frangine fait la mini cette année, sur ce bateau que tu cherches, tu peux la rencontrer. » Et donc je rencontre sa frangine, Cécile Andrieux, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a aussi bien préparé son bateau que elle. Et donc c'est un bateau de série, il est identique à plein d'autres, mais ce qui va faire la différence, c'est la préparation technique, la finition, tout. Et on s'est tout de suite fait confiance, on a navigué ensemble une fois avec Cécile et voilà comment j'ai trouvé le bateau.
Pourquoi maintenant ?
Bah, le projet de Mini Transat, c'est un peu un truc auquel je pense depuis toujours et c'est aujourd'hui que j'ai les conditions pour le faire, quoi.
C'est quoi le déclic ?
J'ai rencontré une personne avec qui on a des parcours parallèles, et c'est Martha Guemes qui a fait la Mini en 2019. C'est elle qui m'a redonné cette envie à ce moment-là. Enfin, on a parlé de Mini et en fait elle m'a juste dit « Mais Bruno, c'est le seul moment de ta vie où tu pourras faire ça, t'as lâché ton job, donc t'as du temps ». Tu t'es fait larguer, voilà, et j'ai cette ouverture pour pouvoir dire peut-être c'est maintenant, quoi.
Là, tu te lances dans un projet de mini transat. Qu'est-ce qui la définit vraiment ?
Mon projet, c'est pas juste la mini transat. La mini transat, c'est la course finale d'un projet. C'est la course la plus longue du projet. C'est un peu l'aboutissement. Pour moi, ce projet, il est complet du premier jour où je reçois le bateau au dernier jour où j'arriverai en Guadeloupe. C'est un tout. Donc toutes les courses préparatoires, tous les entraînements, pour moi, c'est... Je fais ce projet pour progresser dans la voile et aussi pour mieux me connaître. C'est un projet qui va me pousser dans mes retranchements à plein de niveaux, physiquement, mentalement, pendant les courses. Je pense que je vais aller très loin dans mes retranchements et c'est quelque chose qui va me permettre de me connaître mieux aussi, quoi.
Nous arrivons enfin à Concarneau. Il fait beau, il y a un peu de vent. Cécile Andrieux vient à notre rencontre. Directrice du pôle de course au large de Mer Concept, elle est aussi team manager du trimaran de François Gabart. Elle a les cheveux châtain clair et le regard décidé.
Je suis effectivement l'ancienne propriétaire de Callisto. Moi, je suis devenue sa propriétaire en décembre 2019. Je dois reconnaître que j'ai commencé par lui donner ce nom, parce qu'elle ne portait pas ce nom avant. Callisto, c'est le nom d'une déesse grecque qui... à la base, j'ai une passion pour les ours. Et donc, je cherchais un nom en lien avec un ours. Et il se trouve que donc, c'est le mythe grec qui est à l'origine aussi de la grande ours, qui est un peu l'étoile qui permet de repérer le nord quand tu es en mer. Et donc, après, en soi, le mythe de cette déesse, il est assez horrible sur le fait que, globalement, c'est une déesse très belle qui a été un peu abusée, et qu'on a exilé, transformé en ours, puis mis dans le ciel avec son fils qui fait la grande ours et la petite ours. Voilà, mais j'aime bien l'idée que Bruno, il ait adopté ce nom et aussi le fait que ce soit une fille, ça me fait rire qu'il continue à dire elle. Et voilà, non, c'est une chouette passation qu'il ait gardé ce nom-là et qu'il se l'ait approprié. Elle a une autre histoire avec lui.
En marchant, nous atteignons le ponton où Callisto est amarrée. Elle paraît presque fragile. 6,50 m de long, 3 de large, une coque fine, une cabine nue, juste l'essentiel. Et pourtant, ce petit voilier a déjà traversé l'Atlantique 3 fois et il s'apprête à recommencer. Pour Bruno, ce bateau, c'est bien plus qu'une simple embarcation. Il me raconte ça en 2023, juste après avoir terminé la course.
On passe par tellement d'émotions à bord. Enfin, moi, ce bateau, je lui ai parlé, je l'ai caressé, je l'ai embrassé, je l'ai encouragé. Donc, un peu comme si c'était une personne ou un animal qui m'accompagne, effectivement, ou en tout cas un binôme indissociable, quoi. Et c'est clair que tout ce parcours-là, il se fait... c'est un couple bateau-skipper. Et d'ailleurs, le processus de qualification, on qualifie pas seulement un skipper, mais bien le couple bateau-skipper. Et les courses qu'on fait sur les autres bateaux ne comptent pas dans le processus de qualification.
Bon, posséder un bateau, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas pour traverser l'Atlantique. Après avoir visité Callisto, on s'installe avec Bruno pour un café. Alors je lui demande quelles sont les étapes pour se qualifier à la Mini Transat.
Il faut savoir qu'en fait, il y a tout un processus de qualification, donc il faut faire des courses de plus en plus longues pour pouvoir se qualifier à d'autres courses plus longues, pour pouvoir ensuite se qualifier pour la Mini Transat. Et il y a d'autres épreuves parallèles en plus, et des stages de survie. Et donc, en fait, la qualification pour la Mini Transat, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Ça peut se faire sur un an, mais en fait, ça se fait de moins en moins sur une seule année, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Et donc, en fait, le principe, c'est le premier qui a validé toutes les étapes de qualification, il est pris pour la Mini. Mais si tu traînes, tu vas te retrouver sur liste d'attente. Et donc, les gens qui préparent un projet sur un an, c'est un peu risqué. Et le risque, c'est de se retrouver sur liste d'attente et de pas faire la Mini, en fait.
La Mini Transat, c'est une course qu'on ne prend pas à la légère. Il y a eu des abandons, des naufrages et même des morts. Alors, pour monter à bord, il faut prouver qu'on est prêt, sur tous les plans. Virginie Trarieux en sait quelque chose. Elle est
présidente du comité technique.
Nous nous rencontrons à Lorient.
Alors, ça consiste à ce que tous les coureurs partent avec la même équité sportive et qu'ils partent en toute sécurité, avec l'équipement de sécurité nécessaire pour traverser. C'est assez technique parce qu'en fait, on a tout ce qui est balise et tout ça. Et après, tout ce qui est éléments de sécurité personnelle, gilet de sauvetage, combinaison de survie, radeau, tout l'équipement qui peut les sauver en cas d'avarie grave. Quoi.
En quoi c'est dangereux de traverser l'océan sur un bateau de 6,50 m?
Alors, 6,50 m ou 100 m, c'est la même dangerosité parce que tout simplement, la mer, elle est indomptable. Quoi. On fait tout pour qu'ils soient en sécurité, mais on ne peut pas calmer la mer quand elle est en colère.
Le héros de la mer est un héros de la mort, écrit Bachelard. Et soudain, je comprends. Traverser l'Atlantique, c'est aussi affronter l'idée qu'on pourrait ne jamais en revenir. Et pourtant, à chaque édition, de plus en plus de femmes et d'hommes veulent tenter l'aventure. Tellement qu'on doit refuser du monde. La Mini Transat, aujourd'hui, c'est une légende. D'ailleurs, quand Bruno a dit à son ami Charles qu'il avait décidé de faire la Mini Transat, ce dernier a pensé...
Ah, le salaud.
Je le rencontre chez lui, à Nantes.
Moi, c'est Charles Tancret. Je connais Bruno depuis qu'on est ados et on s'est rencontrés en vacances ensemble à Quimiac, sur la côte en Loire-Atlantique, à 1 heure de Nantes. On faisait de la voile, de la planche à voile et puis la fête. On était une grosse bande de potes à faire du bateau. Et avec Bru, pendant les études, on faisait pas mal de régates. Bru, il a fait le Tour de France, des trucs comme ça, des trucs un peu bourrins. Moi, je faisais juste les régates du dimanche, saucisson. Mais du coup, on avait cette passion commune.
Pour Charles, avoir un ami qui fait la Mini, c'est un peu vivre par procuration un rêve collectif.
Tous les potes ont fait du bateau depuis longtemps, la Mini c'est mythique. J'ai l'impression qu'à 25-26 ans déjà, il commençait à parler un peu de Mini. Et du coup là, il était à un moment de sa vie où il avait un créneau de temps devant lui qui s'ouvrait. Il avait un peu de sous et puis il avait surtout, je pense, la maturité sur le projet parce qu'il savait ce que ça représentait comme engagement. Et donc il s'est dit, allez, je dédie 2 ans à ce truc-là à fond. Et puis voilà.
L'investissement physique, mental, organisationnel et financier que représente cette course, Emmanuel Versace en a bien conscience. Il est l'organisateur de la boulangère Mini Transat 2023 et 2025.
Ce sont des projets qui sont abordables financièrement, mais ça reste des sommes assez importantes. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas non plus dénigrer le fait qu'il y a des coureurs qui sont allés chercher une petite centaine de milliers d'euros pour participer. C'est des jeunes gens de entre 25 et 35 ans, c'est pas rien. Pour trouver 100 000 euros, c'est pas donné à tout le monde. Donc il y a aussi l'école d'aller chercher les partenaires. Et je pense que ça c'est quand même quelque chose d'engagé et d'engageant. Et ça, clairement, il n'y a pas uniquement l'aspect compétition, il y a aussi l'aspect trouver des partenaires, trouver des centres d'entraînement, courir, trouver du temps libre pour courir. Alors il y en a certains qui prennent des jours off ou des disponibles de leur travail. Il y en a qui quittent leur travail pour faire ça, donc c'est aussi très engagé de ce point de vue-là. Et ça, je pense qu'il faut avoir très envie de le faire, parce que si on n'a pas très envie, forcément, ça se verra dans les performances. Et après, bien sûr, sur l'eau, aujourd'hui, traverser l'Atlantique en bateau, ça reste quand même quelque chose de mythique. Il y a une dimension aventurière qui est indéniable aujourd'hui, c'est clair. Donc sportivement, humainement et d'un point de vue d'aventure, aujourd'hui, la Mini Transat est une des courses les plus complètes qui existent.
Avant, il y avait un lac. Avant, il y avait un lac. Avant, il y avait un lac.
Retour à Concarneau. Avant de rentrer chez moi, je pose une ultime question à Bruno. Qu'est-ce qu'on gagne au juste quand on franchit la ligne d'arrivée de la Mini Transat ?
Il n'y a rien à gagner d'autre que l'expérience.
C'est pas vrai. Il n'y a pas de prix.
De vie, quoi. Non, il n'y a pas de prix monétaire à la fin de la course. Non, non, c'est pas du tout une recherche financière, quoi. C'est clairement une recherche de progression d'une pratique de la voile et d'une connaissance de chacun, quoi. Enfin, je pense que chaque personne qui fait ça a ses motivations. Moi, les miennes, c'est de là, quoi. C'est naviguer mieux et puis me connaître mieux.
Alors là, je reste bouche bée. Dépenser tout cet argent, mettre sa vie en danger, et entre parenthèses, pendant 2 ans, sacrifier parfois sa vie sociale, sa vie familiale ou son couple, pour quoi ? Heureusement, Emmanuel Versace, qui travaille à l'organisation de la course, a une réponse un peu plus nuancée.
Historiquement, dans la voile, on gagne pas beaucoup de prize money, que ce soit sur le Tour de France à la voile ou maintenant sur des courses type Solitaire du Figaro qui ont des moyens, font des prix, sur le Vendée Globe également. Mais traditionnellement, dans beaucoup de courses, on gagne pas de prix monétaire. Ça fait partie de la tradition. Alors nous, on va offrir des prix, bien sûr, pour les podiums. Le 9 décembre, il y a la remise de prix à Paris au Musée de la Marine sur les Trocadéro. Après, je pense que l'aura... aujourd'hui, si on prend tous les vainqueurs de la course, ils ont tous fait des carrières derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la couverture médiatique de la Mini Transat, même si elle n'équivaut pas à celle du Vendée Globe, est quand même intéressante dans l'écosystème de la voile. Quand on gagne la Mini Transat, on a gagné la Mini Transat, quoi. Et ça, c'est quand même un prix qui vaut quelque chose, quand même.
Et pour gagner la Mini Transat, c'est bien. Il faut bien commencer quelque part. Plusieurs semaines ont passé depuis que j'ai laissé Bruno à Concarneau avec Calisto. Nous sommes en mars 2022 quand il m'envoie ce vocal.
Moi, Domi, je pars en qualif demain. Je fais la boucle un peu dans le mauvais sens. Je pars de Concarneau, je vais vers La Rochelle avant de remonter jusqu'en Irlande pour finir de nouveau à Concarneau. Habituellement, on le fait plutôt dans l'autre sens parce que ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur la météo en Irlande. Mais bon, voilà, je suis un peu stressé parce qu'on est en mars et qu'il fait encore assez froid, et notamment en Irlande, et que ça nécessite de partir tout seul pendant au moins 6-7 jours. C'est la première fois que je pars aussi longtemps sur le bateau et on n'a pas d'encadrement technique, c'est vraiment moi qui dois me gérer, quoi.
Et voilà, Bruno est parti seul en mer pour sa première nave en solo, avec pour seule certitude, celle d'être exactement à sa place. Dans le prochain épisode de 6 m50, Bruno traverse l'Atlantique en imagination, d'abord, à travers une course qui va tout bouleverser, la SAS. SAS, comme Sable d'Olonne, Açores, Sable d'Olonne. Une boucle au large, dont il ne ressortira pas indemne. Une course qui va l'épuiser, le transformer, le vider aussi. Une course dont il sortira en se disant « plus jamais ça ». Alors Bruno revoit sa copie, centre d'entraînement, autofinancement et une décision folle. Faire de son bateau une œuvre d'art. Découvrez comment Calisto devient bien plus qu'un voilier dans l'épisode 2 « Esprit Mini, es-tu là ?» Écriture, réalisation, montage, Domitil de Vevey. Mixage et soutien inconditionnel, Fabien Bourlier. Musique, Chamaille. Photographie, Vincent Olivo. Création visuelle, Julia Luisa. 6m50 est une histoire originale soutenue par la brasserie artisanale Aérofab. Ensemble, nous avons créé une bière dont l'étiquette reprend le visuel imaginé par Julia Luisa pour Calisto. Vous avez aimé ce podcast ? Parlez-en autour de vous. Merci.
Parfait, elle est bonne celle-là.